Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans les années 30 à Marseille. Et c'est une histoire sur la duplicité de l'homme, dont le héros est Alexandre Sarré, avocat, en passe de devenir député. Jusqu'à ce que ses magouilles soient dévoilées au grand jour. C'était un escroc qui a tué au moins 3 fois et peut-être 5 juste pour de l'argent. Et pour ce faire, il a instrumentalisé 2 sœurs, les sœurs Schmitt, qui étaient aussi ses maîtresses. Cette histoire commence au mois de mars 1931, à Marseille. Une journée radieuse, les terrasses sont bondées, l'avenue du Prado aussi, et il y a là une jeune femme qui marche, sourire aux lèvres, environ 30 ans, blonde, jolie. Soudain, un homme s'arrête devant elle, la dévisage et lui dit « Catherine ? Mais c'est pas possible !» Et d'un coup, elle est paniquée et elle s'enfuit en courant. Et l'homme derrière tente de la suivre, mais il la perd de vue dans la foule, alors il court au commissariat.
« Je viens de voir un fantôme !»
Car la femme qu'il vient de croiser, c'est une de ses amies, Catherine Schmitt. Enfin, en principe, c'était une de ses amies. Elle est censée être morte depuis quelques semaines.
« Je suis allé à son enterrement !»
L'affaire n'est pas banale, c'est une résurrection. Et c'est trop pour le commissariat de quartier, le dossier file immédiatement au commissariat central de Marseille, le fameux évêché. Et là, un policier en charge des escroqueries voit le nom de cette morte, qui ne serait pas morte, Catherine Schmitt, et il se dit « Tiens. » Il en a déjà entendu parler de cette ressuscitée. Un assureur est venu porter plainte il n'y a pas longtemps. Cette Catherine Schmitt est l'une de ses clientes. Elle a souscrit chez lui une assurance sur la vie. Et comme elle était morte, eh bien quelqu'un s'est présenté pour toucher l'assurance. En principe, c'est sa mère qui doit toucher l'argent. Mais c'est pas sa mère qui est venue. C'est sa fille, la sœur de cette pauvre Catherine. Elle est venue avec une procuration. Sa mère était trop vieille, et patati, et patata. Il n'y avait qu'à lui donner l'argent, et elle le lui remettrait. Mais l'assureur a trouvé que la procuration était louche. C'est pour ça qu'il est venu porter plainte, et voilà donc que cette Catherine Schmitt serait ressuscitée. Elle est dingue, cette histoire. Le commissaire mène sa petite enquête. Catherine Schmitt, avant de mourir, contracte des assurances sur la vie auprès de 7 compagnies d'assurance. Et à sa mort, sa mère, Rose Schmitt, est censée toucher 1 700 000 francs. Alors les policiers font le tour des assureurs. Hormis le dernier qui a eu un doute, tous les autres ont payé. Ils ont versé l'argent. Et vous vous souvenez? À qui vous l'avez versé, cet argent? Et pardi, à Madame Rose Schmitt, la mère de la défunte. À quoi ressemblait-elle? C'était une vieille femme. Elle était en deuil, elle était toute en noir, avec une voilette. On n'a pas trop parlé, elle disait qu'elle parlait mal le français. Il y en a un, tout de même, sur les 6, qui a noté un curieux détail. J'ai eu un doute, quand j'ai vu ses mains. Elle n'avait pas les mains d'une personne âgée. Évidemment, les policiers s'intéressent aussi à la sœur de cette pauvre Catherine. Celle qui aurait tenté d'embrouiller le 7e assureur avec sa procuration en bois. Ils vont frapper chez elle. Bonjour madame. Et ils perquisitionnent son appartement. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Des vêtements de vieille femme, une voilette de veuve et une perruque grise. Confirmation que Philomène, c'est son prénom, s'est faite passer pour sa mère, pour empocher l'argent de l'assurance sur la vie de sa sœur décédée, qui d'ailleurs ne serait pas décédée. Eh bien, quel sac de nœuds! Philomène Schmitt est amenée à l'évêché. C'est une femme aux traits durs, sèche comme un coup de trique, avec des yeux qui lancent des éclairs.
« Ma sœur est morte! Vous n'avez qu'à aller au cimetière si vous ne me croyez pas !» Et pourquoi avez-vous utilisé une fausse procuration, si tout était en règle. Ma mère est malade. J'ai eu peur qu'elle ne puisse pas récupérer son argent. J'ai improvisé. C'est pour ça que vous vous êtes déguisé, pour vous faire passer pour elle. Ça, c'est un mensonge, hein. Ma mère s'est sentie mieux, et c'est elle qui a fait les démarches.
À la fin de son interrogatoire, personne ne la croit, et Philomène Schmidt est expédiée en prison. Deux jours plus tard, une femme se présente à l'accueil de l'hôtel de police.
« Bonjour, je voudrais voir le commissaire. »
Elle insiste, et voilà donc le commissaire.
« Bonjour, mademoiselle. Alors il paraît que vous voulez me dire quelque chose de très important. Qui êtes-vous ? » ?»«
Je m'appelle Catherine Schmidt. »
« Comment ?»
Eh oui, la morte vient de ressusciter officiellement.
« Vous avez des papiers d'identité ?»
La dame lui tend sa carte d'identité. Catherine Schmidt, née en 1903 en Allemagne, fille de Rose Schmidt. Et surtout... déclarée morte à l'état civil.
Je crois, madame, que nous allons avoir une petite conversation, vous et moi. Vous allez commencer par me dire qui est mort à votre place. Parce que moi, j'ai un certificat de décès et j'ai un corps dans une tombe. Eh bien, la morte, c'est une tuberculeuse. Magali Herbin, qu'elle s'appelait. Elle n'avait plus que quelques semaines à vivre. C'est ma sœur qui a tout organisé. Elle me disait qu'on aurait de l'argent, qu'on serait plus pauvres. Je suis misérable, monsieur le commissaire.
Catherine Schmidt, revenue d'entre les morts, rejoint sa sœur en prison. Le lendemain, sa sœur Philomène est à nouveau sur le grill. Elle ne peut plus raconter des fariboles. Quand cette Magali Herbin est morte, elle l'a fait passer pour sa sœur. Et elle le confirme. Elle a obtenu un certificat de décès au nom de sa sœur. Elle a capté l'argent de l'assurance vie.
Voilà. C'est pas l'affaire du siècle, hein. Mais c'est une belle escroquerie.
Le commissaire fait passer le dossier au juge d'instruction. Et le lendemain, un entrefilé paraît dans le journal local. Les sœurs Schmidt ont été arrêtées. Et c'est le début d'une autre histoire. Le lendemain de l'arrestation des deux sœurs, un certain Marcel Poncel lit la nouvelle dans le journal.
Oh ! Les sœurs Schmidt ! Arrêtées ! Au bout du...
Il prend immédiatement le train pour Marseille et il débarque au commissariat. Il veut lui aussi parler au commissaire.
Monsieur le commissaire, ça fait presque 6 ans que je raconte mon histoire aux gendarmes et aux juges et personne ne me croit. « Mais c'est un monde, ça !»«
Et quelle histoire, monsieur ? Quelle histoire ?»«
Bon, c'est au sujet des sœurs Schmidt, celles que vous avez arrêtées. Eh bien, elles ont assassiné quelqu'un dans ma villa. »«
Pardon ? Assassiné, dites-vous ? » ?»«
Oui, monsieur le commissaire. Elles ne l'ont pas fait toutes seules, hein ? Elles avaient un complice. »«
Un complice ? Et qui ça ? » ?»«
Alexandre Sarré. Ça vous dit quelque chose ?»«
Sarré ? L'avocat ? Celui qui se présente comme député ?
Tout juste, monsieur le commissaire.
Le commissaire se gratte la tête. À partir de maintenant, il marche sur des œufs. Alexandre Sarré. C'est pas n'importe qui. Son vrai nom, c'est Alexandre Serradjani. Né à Trieste en 1878, c'est un avocat d'affaires très connu à Marseille. Massif, la tête d'un taureau de corrida, riche, et qui se présente à la députation dans un mois, avec de bonnes chances, dit-on, d'être élu. Donc, prudence, prudence.
Continuez, monsieur Poncel. Mais soyez conscient que porter de telles accusations est grave. T'es, je sais, pardi. Tellement grave que ça fait 5 ans que personne ne me croit.
Eh bien, moi, je vous écoute. Allez-y.
Bon, je la raconte une dernière fois, mon histoire. Voilà, c'était à 1925, monsieur le commissaire. J'ai loué ma villa aux sœurs Schmidt. C'est une villa que j'ai à Flandre-Côteaux, à 6 kilomètres d'Aix-en-Provence. Et assez vite, j'ai appris que Maître Sarré y venait souvent. Il disait que ça le reposait de la vie marseillaise. Et puis ils sont partis, j'ai récupéré ma villa, et là j'ai remarqué des choses bizarres. Quelles choses bizarres ? Eh bien, les tapis étaient brûlés, rongés. Et dans le jardin, j'ai trouvé un soulier de femme caché, tout rongé, comme si on avait jeté dessus du vitriol. Et puis il y avait une odeur piquante. Dans le jardin, les plantes étaient toutes noircies, elles étaient brûlées. Et là, j'ai retrouvé des boulettes. Des boulettes ? Oui, je m'explique. J'ai été expert agricole autrefois. J'ai travaillé avec le bétail. Et parfois, quand on abattait une bête, on traitait la carcasse à l'acide. Eh bien, j'ai retrouvé dans mon jardin les mêmes boulettes noires que celles que j'utilisais à l'époque pour dissoudre les carcasses de vaches. Les mêmes, monsieur le commissaire. Alors je me suis dit que Sarré et les sœurs Schmitt avaient assassiné quelqu'un chez moi et dissous son corps dans de l'acide. Et vous avez parlé de ça aux gendarmes, c'est ça ? Oui, oui. Mais comme monsieur Sarré est un monsieur important, on m'a pas écouté. C'est pour ça que quand j'ai vu l'arrestation des deux sœurs Schmitt dans le journal, j'ai bondi dans le train. Quelle histoire ! Quelle histoire ! Il dit aussi que Catherine, la plus jeune, est la maîtresse de Sarré, et que peut-être il couche aussi avec l'aînée, Philomène, de temps en temps. Un drôle de trio. Marcel Poncel reprend le train pour Aix-en-Provence, et le commissaire décide de s'intéresser, prudemment, à ce Sarré, Alexandre Sarré. Son cabinet est au 4 de la rue Palu, et il habite rue Auguste Blanqui. Marié deux fois, divorcé deux fois, il a deux filles et l'aîné André lui sert de secrétaire. Et ça n'est pas un avocat qu'on voit en robe au palais de justice. Il ne plaide pas, Maître Sarré. C'est un avocat d'affaires, c'est un conseil. À part ça, pour être honnête, ça n'est pas la première fois que la police lui tourne autour. On lui prête des escroqueries, des captations d'héritage. Mais jusqu'ici, on n'a jamais rien pu prouver. Une petite enquête confirme qu'il fréquente bien les sœurs Schmitt depuis 1920. Elles sont arrivées à Marseille pauvres. Deux Allemandes de Bavière, couturières. Eh bien, à partir de 1926, leur sort s'est considérablement amélioré. Elles ont acheté une maison, elles vivent à l'aise, elles ont de belles toilettes, elles mangent dans de bons restaurants, elles voyagent. Et si on les sortait toutes les deux de leur prison pour leur poser quelques questions ? Le commissaire commence par Catherine, la ressuscitée d'entre les morts. Mademoiselle, vous avez avec votre sœur loué la villa L'Ermitage, à Aix. Vous vous souvenez de ça ? Oui ? Un certain Alexandre Sarré vous y rejoignait. Ça aussi, vous vous en souvenez. Maître Sarré, c'est un ami. C'est lui qui m'a présenté mon mari. Je suis veuve. Il nous a beaucoup aidés, ma sœur et moi. Il s'est passé quelque chose durant votre séjour à la villa ? Quelque chose ? Non, rien d'extraordinaire. Il passe ensuite à Philomène, l'aînée. Et c'est troublant, elle raconte à peu près la même histoire. Elle connaît Sarré, et il lui a présenté son mari, lequel mari, lui aussi, est mort. Elles n'ont pas de chance, les deux sœurs, veuves, toutes les deux. Le commissaire décide alors de convoquer l'avocat. C'est courageux de sa part. Un presque député. Maître Sarré s'assoit dans son bureau face à lui le 27 mars 1931. Cheveux en brosse, visage carré, cou puissant. C'est un homme d'action. Monsieur Sarré, vous connaissez les sœurs Schmitt ? Oui, monsieur le commissaire, oui. J'ai aidé ces pauvres femmes. Elles ont eu bien du malheur. Et comment les avez-vous aidés ? Eh bien, j'ai arrangé leur mariage avec deux de mes clients. Des mariages blancs, autrement dit. Oui, oui, mais il y a prescription. Peut-être, peut-être. Reconnaissez-vous avoir séjourné avec les sœurs Schmitt dans la villa L'Ermitage à Aix-en-Provence ? Là,
Alexandre Sarret marque un temps d'arrêt assez long.
Oui. Je crois savoir où vous voulez en venir. J'ai commis un crime là-bas.
Eh ben, dis donc. Il a flanché d'un coup. En août 1925.
J'ai tué un dénommé Chambon. C'était un maître chanteur. Il me faisait chanter. Il m'a menacé. Voilà. C'était un prêtre défroqué. Un individu néfaste. On s'est battu. Le coup de fusil est parti.
C'est un accident, monsieur le commissaire. Il raconte ça comme s'il avait arraché de mauvaises ronces dans un jardin.
Il a tué un homme, mais ne vous inquiétez pas, il était néfaste.
Et le commissaire n'a pas encore tout entendu. À ce stade, le commissaire suppose qu'il a beaucoup à apprendre sur Alexandre Sarret. Mais pour l'instant, il se concentre sur ce qui s'est passé le 20 août 1925 à la villa L'Ermitage, à Aix-en-Provence. Alors il fait venir Catherine Schmitt, la ressuscitée. C'est elle et sa sœur qui avaient loué cette villa. C'est chez elle que ça s'est passé. Quand elle arrive, elle a l'air d'avoir 40 ans, elle en a 28. La prison ne lui réussit pas.
Nous avons arrêté Alexandre Sarret. Il a avoué qu'il a tué un homme dans la villa d'Aix-en-Provence. Autrement dit, chez vous. Vous confirmez ?
Catherine éclate en sanglots.
Non ! Il a tué deux personnes ! Un homme et une femme ! C'était un guet-apens !
Deux personnes ? Nouveau rebondissement. Et elle raconte comment Sarret a choisi la villa avec elle.
On a d'abord trouvé une maison à Marseille. Mais il y avait des voisins et il y avait un chien qui aboyait. Alexandre a dit que ça n'allait pas. L'ermitage était parfait. Il a juste mis une baignoire. Il n'y avait pas de baignoire.
Et elle raconte ensuite qu'un jour, Louis Chambon, l'individu néfaste qui a fini dans l'acide, débarque à la villa.
Qui est ce monsieur Chambon ? Je ne sais pas. Il est avec Sarret dans toutes ses affaires louches.
Et alors ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Je l'ai fait monter à l'étage. On est entré dans la pièce. Sarret était planqué derrière un paravent. Il est sorti. Il a tiré au fusil de chasse. Et voilà.
Et alors le deuxième crime, la deuxième victime, qui c'est ?
C'est Noémie Ballandreau. C'était la maîtresse de Chambon. Le lendemain, Sarret l'a invitée à la villa. Je suis allé la chercher en taxi à Marseille. Elle est entrée dans le salon. Il lui a offert une limonade. Je suis sorti. J'ai fait tourner le moteur d'une moto pour couvrir le bruit du coup de feu. Il l'a tué. Avec son revolver. Il a dit « j'ai pas pu faire autrement ».
La suite est terrifiante. Alexandre Sarret va à Aix-en-Provence. Il revient avec 4 bonbonnes d'acide sulfurique, 100 litres. Il cimente le fond de la baignoire qu'il vient de faire installer. Entre-temps, les corps avec la chaleur ont commencé à se décomposer. Il les met tous les deux dans la baignoire et il verse l'acide. Et avec une longue perche, il touille comme un cuisinier de l'horreur. Et bientôt, il n'y a plus qu'une bouillie puante. Il remet de l'acide plusieurs jours. Et à la fin, ils vont vider tous ensemble, lui et les deux sœurs, avec des seaux, la bouillie dans les toilettes.
Ne remplissez pas les seaux à bord ! Attention aux gouttes d'acide ! On complète avec de l'eau !
Et ce qui reste est finalement répandu dans le jardin.
Enfin, Madame Schmitt, vous n'avez pas pensé à dénoncer Alexandre Sarret ?
Il nous a menacés, ma sœur et moi. La villa a été louée à notre nom. Je suis un homme puissant, qui disait. On ne vous croira pas. N'oubliez pas que vous êtes allemande. Cet homme est capable de tout, vous savez, monsieur le commissaire.
La sœur Philomène est interrogée à son tour et elle dit
« Je ne me souviens pas de tout. Mais si ma sœur le dit, c'est que ça s'est passé comme ça. »
Le commissaire a besoin de preuves. Les aveux ne suffisent pas. Alexandre Sarré est puissant. Alors la villa est fouillée de fond en comble. Sur le mur, dans la pièce où Louis Chambon a été abattu à coups de fusil, il y a des traces de sang. Il y a aussi ces tapis brûlés qui partent au laboratoire. Les policiers retrouvent la trace de l'achat de 100 litres d'acide à Aix. Le commerçant a conservé le double de la facture. Mais il reste une question. Pourquoi a-t-il tué Chambon? Et la réponse la voilà. Chambon était un usurier. Il prêtait de l'argent, en général avec des intérêts faramineux, et on avait intérêt à le lui rendre. Alors pendant quelque temps, Sarré a fait vivre Chambon. Il a dit aux gens « Il est parti en Suisse, avec son ami !» Et il a siphonné 200 000 francs que les gens devaient à Chambon. 200 000 francs en 2 mois. C'est la réponse à la question du mobile. Il l'a tué pour lui prendre son argent. Banal. Et les policiers vont découvrir que dans l'escroquerie aux assurances sur la vie, la fausse mort de sa maîtresse Catherine, l'argent, a fini dans ses poches. Il reste une chose à éclaircir. A-t-il tué les deux maris des sœurs Schmitt? Vous vous souvenez qu'elles sont veuves toutes les deux? Eh bien oui, c'était une de ses escroqueries. Il leur a fait épouser à chacune un vieux en mauvaise santé. Ensuite, il leur a fait contracter une belle assurance sur la vie. Il y avait une visite médicale, bien sûr. Il y a envoyé un complice en pleine forme. Et puis les maris mouraient et Sarré récupérait l'argent des assurances. Mais les maris, est-ce qu'ils sont morts de vieillesse ou est-ce qu'on les a aidés? Le commissaire et le juge feraient bien déterrer les cadavres. Mais malheureusement, les deux sœurs Schmitt les ont mis à la fosse commune. C'est ballot. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Marseille, l'arrestation d'Alexandre Sarré fait un sacré raffut. Et ça délie les langues. Un médecin se présente et dit que Sarré lui a proposé de l'argent pour établir un faux certificat de bonne santé. Pour une morte. Est-ce que ça ne serait pas pour cette Magali Herbin, cette jeune tuberculeuse, morte et enterrée à la place de Catherine Schmitt? Est-ce qu'elle est vraiment morte de la tuberculose d'ailleurs? On exhume son corps et dans son organisme, les médecins retrouvent du sel de zinc. Un poison mortel. Elle a été empoisonnée à petit feu. Si on exclut les deux vieux maris, dont on ne pourra jamais prouver qu'ils ont été assassinés, Maître Sarré et les deux sœurs auraient donc tué 3 personnes. Magali Herbin la tuberculeuse, Chambon et sa maîtresse Noémie Ballandreau. Les assument-ils tous les 3? Alexandre Sarré est dans le bureau du juge d'instruction Rochu. Calme, sûr de lui, tranquille. Avez-vous tué Louis Chambon et Noémie Ballandreau? J'ai tué par accident, Louis Chambon, comme je vous l'ai déjà avoué. En revanche, j'ai pas tué Noémie Ballandreau. Hein. Catherine et Philomène Schmitt vous accusent de ce crime. Ah bien sûr, mais c'est sans doute elles qui l'ont commis. Et concernant Chambon, qu'est-ce que vous avez fait du corps? Ah ça, je ne sais pas. Après je suis parti, j'ai jamais remis les pieds à la villa. Les sœurs Schmitt m'ont menacé. Elles m'ont fait peur. Selon vous, ce sont elles qui ont dissous le cadavre de Chambon dans l'acide. Ah oui, elles en sont parfaitement capables. Il dit que c'est un accident. En vérité, rien n'est moins sûr. Les deux sœurs viennent de faire passer au juge une lettre que Chambon a écrite à Sarré avant sa mort. « Je t'ai aidé dans tes sales combines, tu as gardé l'argent de l'assurance du mari de Schmitt, tu es trop gourmand Alexandre, il faut que tu partages. » Et ça suggère qu'il l'a éliminé. Et on peut imaginer qu'il ait tué Noémie Ballandreau dans la foulée pour qu'elle n'ameute pas la police sur la disparition de son compagnon. Mais en attendant, le juge qui est au bout de son instruction peut s'asseoir sur des aveux circonstanciés. Qu'importe. Il veut les renvoyer tous les trois devant les assises. Alexandre Sarré, les deux sœurs Schmitt, plus tout un tas de complices des escroqueries du trio, et notamment le docteur Lufaux qui faisait de faux certificats. Mais en face de lui, le juge a maître Alexandre Sarré, qui connaît toutes les ficelles de la procédure. Alors Sarré parvient à faire casser une partie du dossier d'instruction, pour vice de forme. Ce qui oblige le juge à reprendre son instruction, à demander de nouvelles expertises, à faire de nouvelles confrontations. Et puis finalement, le 23 octobre 1933, s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence le procès d'Alexandre Sarré, des deux sœurs Schmitt et de leurs complices. Dans le box, Alexandre Sarré est fringant comme un gardon. La salle est pleine, bien sûr. Et d'entrée, il accuse les sœurs Schmitt de tous les crimes. Mais enfin, pourquoi voulez-vous croire toujours les sœurs Schmitt et jamais moi? Que faut-il faire pour être cru? Faut-il être allemande? Faut-il pleurnicher? N'empêche qu'à la fin, l'avocat général réclame sa tête. L'avocat, le grand organisateur du crime, n'a tué que par cupidité. Et il a été jusqu'à refuser une sépulture à deux de ses victimes. Cet assassin, conscient de ses actes, éclairé sur leur portée par le serment qu'il prêta jadis, il ne mérite aucune pitié. C'est le châtiment suprême que je requiers contre lui. Après avoir délibéré durant 3 heures, le jury le condamne à mort. Catherine et Philomène Schmitt sont condamnées à 10 ans de prison et au bannissement. Les autres complices sont relaxés. Le 10 avril 1934, la tête d'Alexandre Sarré, avocat et futur député, tombe sous la lame de la guillotine. Cette histoire, sachez-le, a inspiré un livre à Solange Fasquel, Le Trio Infernal. Et un film à Francis Giraud en 1974 qui porte le même titre.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.